Chers amis, Hachalem Alechem Tihyu, Leorech Yamin Tovim Shani Naimim. Nous poursuivons notre étude en préparation de Rosh Hashanah. Nous allons à présent nous pencher sur la Mishnah de Rosh Hashanah, la page 16. Alors la Mishnah, et là nous allons essayer de cibler, de comprendre véritablement comment se passe le jugement. Quel est le sens du jugement de Rosh Hashanah, et de quelle manière Akadosh Baruch Hu juge les individus et la globalité de la création. Alors la Mishnah nous dit, Be'arba prakim ha'olam nidon. Le monde est jugé en quatre périodes, à quatre périodes de l'année. À Pessah, sur la récolte de céréales. Pourquoi à Pessah? Parce que c'est le moment. Les céréales poussent et doivent être moissonnées à partir de Pessah. Be'atzeret al perot ha'ilan. À Shavuot, c'est le moment où les fruits, on va cueillir les fruits, c'est le début, Shavuot est appelé Yom HaBikurim, c'est les prémices, le jour des prémices. La Mishnah poursuit et dit, Be'rosh Hashanah, kol ba'olam ovrim lefanav kimne maron. À Rosh Hashanah, tout ce qui existe dans ce monde, tous les hommes, les individus, Bayolam, ceux qui circulent dans ce monde, défilent devant lui, passent devant lui, comme les Bnei Marom. La Gemara expliquera à quoi cela fait référence. Quel est le sens de cette expression Bnei Marom? Comme il est dit, Ayot Seri Hadlibam, il est dit dans le psaume, le verset, celui qui façonne leur cœur et il les a façonnés ensemble, alors il comprend l'ensemble de leurs actions et de leurs agissements. Et la quatrième période, c'est à Sukkot, on est jugé sur la pluie, sur l'eau, combien d'eau chacun, combien de d'eau va irriguer le monde. La question qui se pose dans les Rishonim, c'est de savoir si nous disons que l'homme est jugé à Rosh Hashanah, alors ça, n'est-ce pas que ça englobe aussi les céréales, les fruits de l'arbre, la pluie, etc. Alors le Ran répond à cette interrogation, il répond, à Pessah, Shavuot et Sukkot, c'est par rapport à la globalité des pluies, combien le monde va recevoir de pluies, quelle sera la qualité, la quantité des céréales pour le monde, pour l'humanité à Pessah. Mais chaque individu, sa part, la part qu'il aura de ces trois éléments, elle, pour chaque individu, est fixée à Rosh Hashanah. Donc c'est comme ça que le Ran explique le fait qu'il y a un jugement pour les éléments qui permettent la vie, les céréales, les fruits de l'arbre, etc. Et d'autre part, le jugement individuel. Alors il est dit ici, Berosh Hashanah kol ba'e olam ovrim lefanav kibne maron. À Rosh Hashanah, les individus passent devant Akadosh Baruch Hu de manière individuelle, chacun son tour. Comme les bnei maron. Maron, Rashi dit, mefaresh bigmara. Alors la Gemara, à la page 18, ramène cette expression. Kol ha'olam, kol ba'olam ovrim lefanav kibnei maron, mai kibnei maron, acha tergimu, alors qu'est-ce que signifie cette expression-là? Acha tergimu kibnei amarna. Alors, la Gemara, les Chachamim ont traduit cela, kibnei amarna. C'est quoi kibnei amarna? Ça fait référence à celui qui veut compter le troupeau, le berger qui veut compter le troupeau. Nous avons vu que Rosh Chodesh Elul, c'est le premier qu'il y a un Rosh Hashanah les Maaser Behema. Donc les nouveaux-nés du troupeau, il faut y en prélever le Maaser Behema. Alors que celui qui veut prélever le Maaser Behema, il rentre ses nouveaux-nés, les bêtes qui sont nées cette année dans un enclos, puis il fait un couloir étroit et il fait passer les bêtes une par une. Alors il compte 1, 2, 3. Et arrive au dixième, il le marque avec un signe pour savoir que le dixième est Maaser Behema et il va être offert. Donc c'est ça le sens qu'ils ont traduit Kibne Amarna. Donc ça signifie que chacun passe, chacun son tour, un par un, il passe pour être jugé. Resh Lakish n'est pas trop d'accord avec cette explication et il dit de manière différente. Resh Lakish amar ki ma'alot bet maron. C'est comme, alors, c'est les ma'alot, c'est quelqu'un qui monte, qui va grimper dans une montagne. Alors, comment ça se passe? Il arrive à un moment donné où il passe dans un passage étroit. À droite et à gauche, il y a un précipice. Donc, deux personnes ne peuvent pas passer ensemble. Donc, on est obligé. Il n'y a pas suffisamment de place et on risque de tomber. Alors, il faut passer un par un. Et le troisième, Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Ke Hayalot Shel Bet David. Donc, il passe comme les soldats. Le troisième avis dit que c'est comme la place quand les soldats passent pour aller au combat. Donc, on les place un par un. Ils défilent un par un et on les place pour aller au combat. Un par un, là aussi, à nouveau un par un. Donc, dans les trois cas, a priori, ces trois exemples-là qui sont cités, signifie que les individus sont jugés de manière individuelle un par un. Ce qui n'empêche pas que la Mishnah elle poursuit et dit que Vekulam Nisrakim Besrika Ahad, ils sont tous jugés en un seul regard. C'est-à-dire que, quand bien même le jugement se ferait chacun à son tour, malgré tout, Akash Bokhu, il va donner en un coup d'œil, il observe la globalité du monde et ils sont tous jugés en même temps. Ce qui indique qu'il y a deux niveaux. Les Chahora, il y a deux niveaux dans le jugement. Il y a le jugement individuel, l'homme par rapport à lui-même. Si c'est possible une chose pareille, que l'homme soit jugé détaché de son environnement, de sa relation aux autres, etc. Et d'autre part, il y a un jugement qui juge la personne par rapport à l'ensemble, à l'environnement dans lequel, à sa famille, à sa communauté, à son travail, aux gens qu'il fréquente, etc. Comment l'homme, il s'inscrit dans la globalité. Donc il y a deux niveaux de jugement. Toutefois, les commentateurs s'interrogent, quel est l'intérêt de la Gemara de citer trois avis, trois exemples en fait, qui indiquent tous les trois que l'homme est jugé de manière individuelle, indépendante, un par un. Alors, quel est l'intérêt de cela? Alors, par exemple, le marchand dit que ça ne signifie pas que les uns et les autres y sont en désaccord. Seulement, on a cité trois exemples. Alors, chacun, le marchand explique que si on parle des troupeaux, comment on prélève le maaser de troupeaux, alors il s'agit, alors le maaser de troupeaux, il va être sacrifié. Donc il s'agit de la globalité de ces gens-là qui vont être amenés, ou les animaux qui vont être amenés à la shaita. Donc il s'agit de ceux pour qui le jugement va mal se passer. Donc il parle, la Gemara dira dans la page 17, 16 à Moudbet, l'Agma dira qu'il y a trois catégories d'individus, ceux qui sont marqués pour la vie, les tzadikim, les rechaim et les benonim. Ceux qui sont justes, donc dans le jugement va leur être favorable, c'est les tzadikim, ils vont être marqués dans le livre de la vie, les autres qui sont à l'opposé, ils sont dans l'autre livre, et il y a ceux qui sont au milieu. Donc c'est pour ça qu'ils sont cités ici, trois exemples. Alors, le premier exemple concerne les Réchaïs, le deuxième exemple concerne les Bénonymes, et le troisième exemple concerne les Tzadikim. C'est ce que indique le marchand. Il me semble qu'on peut expliquer cela de la manière suivante. Quand nous disons que les individus sont jugés un par un, comme le sont, comme on compte les bêtes du troupeau pour en prélever le maaser. Alors on peut voir ça de manière positive. Le premier passe, donc lui il n'est pas concerné, il est passé. Donc selon quel critère celui-ci est premier et l'autre est deuxième, il n'y a pas de critère. Celui qui s'est levé, c'est comment Akadosh Baruch Hu juge le monde, c'est Yodea Ta'alumot, c'est que lui qui peut savoir pourquoi. Mais dans cette manière de juger, cet exemple-là indique que pour certains le jugement se passe mal, puisque le dixième, la dixième bête sera sacrifiée. Et ça ne plaît pas trop à Reish Lakish. C'est pour ça que Reish Lakish propose un autre exemple. Alors Reish Lakish dit, c'est comme ceux qui vont monter faire de l'alpinisme. Alors ils font une randonnée en montagne, et à un moment ils arrivent devant un passage étroit, dangereux, où il y a un précipice à droite et un précipice à gauche. Donc il faut passer un par un. Alors, en général, quand nous arrivons dans ceux qui font des randonnées et qu'on arrive à un endroit dangereux où on fait de l'escalade, alors en général, celui qui passe en premier, c'est celui qui est le guide, celui qui connaît le chemin, celui qui est aguerri au passage, celui qui connaît comment faire pour, celui qui trace, on fait dans ces genres de randonnées, on met en avant le guide, celui qui ouvre la voie. Il ouvre la voie de telle sorte que ceux qui viennent après, ils ont une facilité pour passer. C'est ça l'exemple qu'il donne. De manière à ce que... Alors, quel est le deuxième? Le deuxième, c'est celui qui a l'habitude aussi. Il n'est pas aussi performant que le guide, mais il sait aussi, il a l'habitude. Et ainsi de suite. De telle sorte que le dernier, celui qui est novice dans le passage, dans ce genre d'activité, alors il a une facilité particulière. On lui a parfaitement ouvert le passage, donc il sait comment faire, il a vu les autres agir. Donc l'expérience des premiers sert non seulement les premiers quand ils passent, ils ouvrent la voie, ils facilitent le passage, mais en plus ils donnent l'exemple. Il montre à ceux qui viennent derrière comment il faut passer cet étroit passage. Et quand Reish Lakish dit ça, alors l'idée intervient Rabbi Yehuda Amar Shmuel, il a une meilleure idée. Il dit que Hayalot shel Beit David, comme les soldats de l'armée de David Ameler. Alors quand on regarde la Gemara, il y a une Gemara, un Mishnah dans Masechet Kiddushin. Alors la Gemara dit que quand on veut se marier avec une fille Kohen, on doit vérifier que quand on se marie, que on apporte des preuves de la famille. Alors il faut remontrer 4 générations du côté paternel et 4 générations du côté maternel, de telle sorte qu'on voit que les gens, c'est des familles où il n'y a pas eu de problème de naissance illicite, etc. Il n'y a pas de problème dans la filiation. Après, la Mishnah cite que, c'est ça en général, il faut vérifier l'ascendance de la personne avec qui on va se marier. De sorte qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, si on prend quelqu'un, on va se marier avec une famille Cohen qui dont les parents ont servi, dont le père et les frères ont servi dans le temple, alors la Mishnah dit « En botki mina misbiach ul ma'ala ». Donc, c'est-à-dire que quand quelqu'un était déjà en fonction dans le Beit HaMikdash, là c'est certain qu'on n'a pas besoin de vérifier, la vérification a été faite. Et la Mishnah cite plusieurs cas. Puis à la fin, elle ajoute, et aussi, si on se mariait avec quelqu'un qui faisait partie de l'armée de David. La Gemara, à ce sujet, dans Kiddushin, dit qu'on choisissait pour sortir en guerre à l'époque de David que les gens qui étaient miohassim, c'est-à-dire des gens qui avaient une filiation parfaite, dont les ancêtres étaient des gens nobles. Donc ils avaient des gens de qualité. Miohassim, c'est-à-dire qu'ils sont reliés à des familles importante, dont la filiation est parfaite, de telle sorte que le mérite des pères, de ces gens-là, des ancêtres, qui étaient des gens pieux, saints et qui ont une qualité particulière, soit portés au bénéfice des soldats qui sortent en guerre et qui permettent la victoire. Donc eux, ils seront préservés et aussi ils apporteront la victoire. Et quel est ce qui marche en premier ? Donc c'est les gens qui ont de... Plus la personne est valeureuse, a une famille valeureuse, il est tzaddik, et il a le sroot, le mérite de ses ancêtres, et plus il passe en avant. De telle sorte que le mérite de celui qui est en premier, il sert à celui qui vient derrière. Non seulement il le sert, mais il permet en fait au groupe, à l'armée de vaincre. Donc c'est porté au bénéfice non seulement des individus qui sont dans l'armée, mais aussi au bénéfice total de la nation. Et c'est ça le sens du jugement. Donc il y a deux manières de juger. Il y a trois manières de considérer ici le jugement que HaKadosh Baruch Hu applique aux hommes. Le premier avis, il dit, on compte comme on passe chacun séparément comme on compte les troupeaux pour arriver au Maaser, pour choisir le dixième. Et là, dans les dinim de Maaser, quand on compte, est-ce que quand on compte, c'est pour arriver au dix, ou on compte chacun à son importance ? Est-ce que c'est le décompte, il est un décompte des individus ? Ou bien les individus importent peu, l'essentiel, c'est pas le 1, 2, 3, 4 qui est important, c'est que le compte, je suis obligé de compter pour arriver au dixième. Mais en fait, il n'y a pas un lien entre le 1 et le 2. Le 1 et le 2 ne sont liés que parce que je ne peux arriver au dixième quand les ayant comptés. Mais chacun n'est pas important. Peu m'importe le 1 et le 2, ils ne sont pas liés les uns avec les autres. Ils sont en fait détachés. Alors que par exemple, quand on compte le Homer, ou le Kohen Gadol, quand il fait l'aspersion, il est dit là-bas, il asperge 8 fois. Alors il asperge il envoie une goutte en haut, Ahat, les Mahla, Vesheva, les Mata, et 7 en dessous. À la queue de lait, mais il compte, il dit Ahat. Après, quand il asperge le deuxième, il dit Ahat, ve Ahat, Ahat, ve Shtaim, etc. Donc il les lit. En vérité, il compte chacune, lié à la première, et chacune est importante. Alors là, des postes qui me disent, si par exemple, quand il a aspergé la quatrième, la troisième, ou la première, de goutte de sang a séché, alors il y a un problème, il faut recommencer. Alors que dans le compte des animaux pour arriver au dixième, au Maaser Sheni, on compte 1, 2, 3, avant d'arriver, si j'arrive au 9 et que le premier, il est mort, alors, peu importe, ça ne me dérange pas, puisque je suis déjà arrivé au 9e, et l'essentiel étant de désigner le 10e. Donc on voit que, dans un cas, l'essentiel c'est d'arriver au 10e, donc les individus n'ont pas d'importance par rapport au dénombrement, ils sont dénombrés de manière distincte, indépendante, alors que dans l'autre cas, c'est un compte, certes, il faut compter 7, mais chaque goutte a son importance. Je dénombre chacune de manière... c'est-à-dire, c'est le compte de chacun qui est important. Chacun est important parce qu'il va... Il s'inscrit dans le groupe de 7. Il en va de même pour le Homer. Souvent, on dit... Il y a des messages qui passent. Il dit, aujourd'hui, nous sommes le 28e jour du Homer. Alors, on est... Mais en fait, c'est de est-ce que dans le Homer, on compte le jour ? Si nous sommes le 28e jour du Homer, alors on compte aujourd'hui ? Ou on compte les 28 jours du Homer ? Il y a une différence. Quand nous comptons le Homer, on dit « Ayom, Shmona ve Esrim, Yom la Homer ». On ne dit pas 28e jour, on ne compte pas un jour. On dit nous sommes 28 jours du Homer. Comme si que nous comptions, en citant le 28, certes, nous sommes le 28e jour, mais nous ne comptons pas ce jour-là indépendamment. Nous comptons les 28 jours du Homer. Chaque jour qui passe s'ajoute au dénombrement précédent. Donc, en fait, en disant 28, on compte le jour même et qui s'ajoute aux 27 précédents. Donc chaque jour est important. Chaque jour s'inscrit dans le nombre. Alors que dans le compte des bêtes, l'essentiel c'est le dixième, chacun est indépendant. Alors c'est cette idée-là que la Gemara, que Resh Lakish, en proposant son explication, veut repousser. Et d'ici à Kadosh Baruch Hu, il juge chacun de manière indépendante, sans relation avec le groupe, ça va être négatif pour la personne. C'est un dénombrement, une manière de juger qui n'est pas trop positive. Pourquoi ? Parce que chaque individu est jugé de manière isolée, comme si il ne vit que pour lui-même. Il est dans son égoïsme, dans son individualisme. Et ça, c'est tout à fait négatif dans le jugement. Le jugement, la manière que Akadosh Baruch Hu veut juger le monde pour le faire basculer de manière positive. Non seulement la globalité du monde, que le monde, comme la Mishnah a dit dans Perkei Avot, la majorité des actions globales. Donc c'est le rov, c'est l'humanité entière qui est jugée dans sa globalité. Mais même le jugement individuel, il est de cet ordre-là. Comment l'homme s'inscrit dans le groupe, dans la nation, dans l'humanité. Et ça, la Gemara dit, le Zohar dit dans les Tikkunim, que le jour de Kippour, les synagogues sont pleines de gens qui aboient comme des chiens. Alors, c'est le jour de Kippour, de chien, les gens, ils aboient, ils disent à Dieu, Havlan haye, Havlan maisonné. Les gens implorent Dieu, donne-moi la vie, donne-moi la parnassa, donne-moi. Et le mot donné, donc quand on dit donne-moi, c'est Havlan. Hav en arabe, ça veut dire donne. Et le fait de répéter Havlan, Hav, donne, ça ressemble à l'aboiement d'un chien. Et nous savons que le chien symbolise l'égoïsme, c'est-à-dire l'individualisme. C'est pour ça qu'à la sortie d'Égypte, les chiens n'ont pas aboyé. Les chiens qui symbolisent l'intérêt individuel, ils se sont tus parce qu'il y a un intérêt global qui a perçu, qui s'est dévoilé lors de la sortie d'Égypte. Et le Zohar dit, les gens, quand ils demandent pour eux, individuellement, de manière égoïste, c'est la pire chose qui peut arriver. Que je beaucoup les considère comme des égoïstes. C'est ça la relation avec le chien. Et là, on nous dit, il ne faut pas que Akadosh Baruch Hu nous juge de cette manière-là. Donc nous-mêmes, nous devons concevoir notre attitude, notre préparation au jugement. Nous devons revoir notre relation vis-à-vis de Dieu, le Kiyum HaTorah Ve'a Mitzvot. Tout ce que nous faisons, que ce soit du domaine spirituel ou du domaine matériel, de manière différente. Non pas de manière égoïste, individualiste et que pour moi, mais de quelle manière je peux apporter un intérêt ou un bénéfice à la globalité. C'est ça le sens de... On est jugé comme les alpinistes qui font passer les plus aguerris et les guides devant, ou bien comme les Hayalim de Beth David. C'est ça l'idée. Et ailleurs, il est dit, pour bien définir le sens du jugement, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il peut nous juger comme les troupeaux, de manière individuelle. Alors là, ce sera sec et inflexible, puisque nous sommes chacun individualiste et détaché des autres, indifférent aux autres, ou bien comme les alpinistes, ou bien comme les soldats. Mais le regard que Akadosh Baruch Hu porte sur nous, il est la conséquence de ce que nous-mêmes nous considérons. Comment nous agissons, vers quoi nous tendons, quelles sont nos aspirations, comment nous comportons. Est-ce que nous sommes comme des chiens qui aboient qui sont absolument égoïstes, ou bien nous pensons aux autres. Et qu'est-ce que je peux apporter à mes semblables et à mon entourage? Alors l'Agmara elle dit, le olam, l'Agmara dans Kiddushin dit que le olam, iré Adam, l'homme doit se considérer toujours en équilibre. Hetzio zakai ve hetzio chayav. Donc c'est ça le sens de la balance. Sur le plateau de droite, on met les mérites. Sur le plateau de gauche, on met les averot. Donc le plateau est en équilibre. Balance, ça signifie que c'est en équilibre. Mais alors, et en équilibre, c'est pas bon. Il faut faire pencher d'un côté ou de l'autre. Alors, il y a sa mitzvah, hat, ichia et asno vetkor olam le kaf zechut. S'il fait une mitzvah, alors il fait basculer lui-même du bon côté, le zechut, pour la vie, et il entraîne avec lui l'humanité. Donc, on voit bien que faire une mitzvah n'est pas un acte égoïste. Il faut avoir, quand nous accomplissons le Torah en mitzvah, c'est participer de faire en sorte que le projet divin de l'existence de ce monde, il se perpétue. Donc c'est un acte de générosité pour soi et un acte de générosité pour l'ensemble de. Donc c'est la mitzvah, elle peut être bénéfique à l'ensemble de la création, à l'ensemble de l'humanité. Donc c'est un acte de générosité. Donc l'acte de mitzvah, l'intérêt de l'acte de mitzvah, il n'est pas seulement individuel, mais il est aussi collectif. Alors ça, cette manière d'observer, d'agir, est essentielle pour que le jugement, que le regard que HaKadosh Baruch Hu va porter sur nous, il soit positif. Donc être jugé par rapport aux autres, quand nous sommes inscrits dans un groupe, dans la communauté, dans le clan, dans l'humanité, donne plus de force à la personne. Et le mérite de la personne rejaillit sur les autres. Le mérite et l'intérêt général est porté au bénéfice de cet individu-là. Et c'est ça le sens du tzaddik. Donc, en vérité, la Gemara va dire, le roi, à quel moment le roi il est jugé? Est-ce que le roi il est jugé en premier ou le roi il est jugé en dernier? Alors, la Gemara, elle dit, si par exemple le roi d'une nation il est jugé en dernier, après que tous les individus, les citoyens de ce pays aient été jugés, alors quand il arrive le moment du roi d'être jugé, alors le jugement il va être sévère. Parce que je vois qu'il a vu que tout ce pays-là, ils se sont mal comportés, ils ont multiplié les péchés. Alors le roi qui représente, quand le jugement du roi, il est double, il est individuel mais aussi collectif, puisque le jugement du roi, il va impacter l'ensemble de la nation. Alors il dit, il est préférable de faire passer le roi en premier. C'est-à-dire que la colère, avant que la colère ne se multiplie, ne s'amplifie. Mais ça c'est valable par rapport au roi, parce que le roi, il a une responsabilité collective sur ses sujets, sur son pays, sur son peuple. Mais il en va de même pour un père de famille, ou un chef d'entreprise, ou un chef de communauté. Alors on va faire passer, selon la dernière version de la Gemara, comme les soldats de David, on va mettre les plus valeureux, les plus puissants, les plus forts en avant, ceux qui ont le plus de mérite. C'est eux qui vont ouvrir, qui vont montrer le chemin, comme il est marqué, Yehuda y allait. Le premier qui allait à la guerre, la première tribu qui allait à la guerre, c'était Yehuda, parce qu'il était le plus fort, le plus méritant, le plus valeureux, le plus aguerri au combat. De telle sorte que ceux qui viennent après, ils soient préservés et qu'il ne leur arrive pas de déboire, qu'il n'y ait pas de blessés, qu'il n'y ait pas de victimes, et que la victoire soit assurée. Donc c'est l'intérêt général. Donc le tzaddik qui sera jugé en premier, de telle sorte que son mérite, lui-même, il est méritant, mais en plus, la définition même de ce tzaddik-là, le chef de la communauté, celui qui a une responsabilité collective, il a double mérite, il a son propre mérite, et aussi, Srut Arabim Talouibo, le mérite collectif dépend de lui. Donc son mérite va être porté au bénéfice de chacun. C'est dans cette optique que nous devons voir le jugement. Donc si nous-mêmes, alors le jugement il se passe comment? Comme nous agissons, de la même manière que nous agissons, que nous avons la volonté d'agir, vers quoi nous aspirons, c'est cela qui définit le regard que HaKadosh Baruch Hu va porter sur nous. Parce que la Mishnah dit, « Bekulam nisrakim besrika ahan » En réalité, ils sont jugés d'un seul coup. Ils sont jugés individuellement, certes, mais aussi dans l'ensemble de la nation. Chacun dans la petite nation, chacun dans sa famille, par rapport à sa famille, à son entourage, à ses collègues de travail, etc. Donc c'est ça l'idée. Maintenant, il y a aussi un autre point qu'il faut ajouter. Le Rambam dit comment on est jugé. Alors on est jugé, celui, on met les mitzvot sur le plateau de droite et on met les averot sur le plateau de gauche. Et le Rambam dit, si nimsa rubo zakai, c'est-à-dire s'il y a rov zechuyot, s'il y a plus majoritairement cet homme-là, il a du mérite, alors il est inscrit sur le livre de la vie. Si majoritairement il est avonot, il y a majoritairement beaucoup plus de avonot, alors il est de l'autre côté. Le sens rov, ce n'est pas une question de rajouter en quantité 1 plus 1 plus 1. C'est pas il a fait 10 000 mitzvot, il a fait 9 000 averot. C'est pas en nombre. En fait, c'est une mida. Comme nous l'avons indiqué, quelle est la véritable nature de cette personne? Quand nous, ce que la Gemara a dit, le'olam yiré adam asmo chetzi zakai ve chetzi hayav. En équilibre, l'homme doit se voir toujours en équilibre, à chaque moment de sa vie, à chaque occasion. Donc il est en équilibre, je suis moitié-moitié. Alors j'ai une possibilité, il peut se présenter à moi une mitzvah, il peut se présenter à moi une avera. Qu'est-ce que je choisis de faire? Alors à sa mitzvah, s'il fait une mitzvah, alors à ce moment-là, il choisit de s'investir dans la mitzvah, donc il fait basculer sa destinée à lui personnelle, mais la destinée du monde. Ça signifie que c'est pas qu'il va faire une mitzvah immédiatement devant lui. Des fois, la mitzvah, il peut penser à être en équilibre, mais la mitzvah ne se présente pas. La avera ne se présente pas, mais vers quoi il tend? Ça définit la qualité de l'individu. Donc, quel est son domaine? À quoi il est rattaché? Qu'est-ce qu'il est en fin de compte? Quel est l'essentiel de son existence? Quel est le domaine? Il y a deux domaines. Le domaine de la matérialité et le domaine de la spiritualité. À quoi tu es attaché? Qu'est-ce qui te définit? C'est quoi ton ambition? Quel est le fond de ton être? Ça définit la qualité de l'homme, sa véritable dimension. Quel est son essentiel? Son aspiration fondamentale? Et c'est ça qui fait qu'il est tzaddik ou il est racha. C'est seulement une question de nombre. C'est qu'est-ce qu'il est? Quel est l'essentiel de son existence? Alors, il y a deux manières. Il y a l'essentiel de son exemple, c'est d'accomplir la Torah et la Mitzvah. Mais pourquoi j'accomplis ça? Pour m'inscrire dans le projet divin, de telle sorte que je me rouvre de perpétuer l'existence. Maintenant, quand je fais des mitzvot, et je m'applique à accomplir les mitzvot, je m'inscris, je permets à ce projet de se réaliser. Et c'est porté au bénéfice de l'ensemble de l'humanité. De l'ensemble, d'abord dans mon environnement le plus proche, puis l'environnement un peu plus éloigné, etc. Donc c'est porté au bénéfice. C'est, si on agit de cette manière-là, dans cette optique-là, alors le jugement, il sera en fonction de ce que nous-mêmes nous sommes. C'est ça l'essentiel du jugement. C'est pour ça qu'il est dit que Akadosh Baruch Hu juge l'homme selon ce qu'il est au moment du jugement. Et c'est ça l'essentiel que nous devons avoir à l'esprit au moment du jugement. Donc pour parvenir, il faut se préparer, il faut méditer cette démarche. Il faut comprendre le sens profond de l'accomplissement de Torah ou Mitzvot. Que la relation verticale vers Dieu, elle ne peut pas être détachée de notre relation horizontale vis-à-vis des autres. Les deux sont liés. Et c'est le sens véritable de la Mishnah. Ils sont jugés un par un, mais ils sont jugés d'un seul regard. Tous les hommes sont jugés ensemble. Qu'est-ce qui prévaut? Mon individualisme, mon égoïsme, mon intérêt personnel ou l'intérêt général? C'est à l'homme de choisir. La manière dont il va vouloir, dont il voudra que Akadosh Baruch Hu l'observe dans le jugement. Donc il peut ou l'observer comme on compte les animaux pour prélever le maaser, ce qui n'est pas terrible, ou un peu mieux, comme dit Reish Lakish, le guide qui ouvre la porte, le chemin qui ouvre la route dans l'ascension, ou bien comme les troupes, les soldats de David, qui sont les plus vaillants, les plus valeureux, les plus tzadikim sont en tête parce que leur action, leur mérite va rejaillir sur les autres et va permettre à ceux qui viennent après d'être préservés. Le mérite du tzadik rejaillit sur ses proches et rejaillit sur sa ville, etc. La Gemara, elle dit dans Ta'anit que Eliyahu HaNavi, il avait l'habitude de venir chez Rabbi Yoshua ben Lévi. Et un jour, il n'est pas venu, plusieurs jours, il n'est pas venu. Alors, il lui a dit, quand Eliyahu HaNavi est revenu étudier avec Rabbi Yoshua ben Lévi, il lui a dit, pourquoi tu n'es pas venu ces jours-ci? Il lui dit, comment je pouvais venir? Voilà que dans ta ville, à proche de ta ville, il y a un homme qui a été dévoré par une bête féroce. Alors il dit, alors quel rapport avec moi? Il dit, toi, ton mérite ne l'a pas préservé. Tu n'as pas eu suffisamment de mérite ou tu n'as pas dispensé de mérite de telle sorte que dans le tchoum de la ville, dans la région, il n'y ait pas d'accident. Donc c'est ça le tzaddik. Le tzaddik, c'est celui qui, a par son mérite, préserve les autres. Il partage son mérite et il le met au profit de la globalité, de l'ensemble. Et celui qui vit dans cette optique-là, tout en sachant que son mérite propre, il est totalement réduit, mais le peu de mérite que l'on peut avoir, le peu d'actions de valeureuses que l'on peut faire, qu'il soit porté à l'ensemble de la communauté. Celui qui agit, qui a cette volonté-là, alors celui-là, il sera jugé de manière positive. Baruch Adonai Eliyahu Olam, Amen et Amen.